RCF. RCF, le béaba du christianisme.
Faut-il un GPS pour découvrir la Bible ? Cette semaine, dans le béaba du christianisme, nous continuons de décortiquer les Écritures avec Michel Quesnel, prêtre de l'oratoire à Lyon, recteur émérite de l'Université catholique de Lyon, docteur en théologie, bibliste et exégète. Michel Quesnel, bonjour. Alors la semaine dernière, nous avons vu comment était structurée la Bible, ce qui distinguait l'Ancien du Nouveau Testament. On a évoqué les styles littéraires variés propres aux communautés chrétiennes de l'époque. On va s'intéresser, pour commencer le deuxième volet de cette émission, eh bien aux évangiles, les écrits les plus connus finalement.
Oui, les évangiles, lorsque Jésus a vécu, en gros, et a prêché pendant environ 2 ans et demi, en général, on considère qu'il a commencé sa mission à l'automne de l'an 27 de notre ère et qu'il est mort en l'an 30. Et on a recueilli de ses paroles. Et il y a eu des recueils de paroles de Jésus qui ont servi pour que les communautés chrétiennes vivent. Et on considère que le plus ancien recueil de textes date environ de l'année 40-45, c'est-à-dire peut-être 10-15 ans après que Jésus a vécu. Et puis, lorsque les premiers témoins ont disparu et qu'ils n'ont plus pu raconter ce qui s'était passé, à ce moment-là, on a mis par écrit. L'évangile de Marc coïncide à peu près avec la mort de Pierre. Pierre a été exécuté à Rome en 64 de notre ère, vraisemblablement sous Néron. Et à ce moment-là, puisque les premiers témoins disparaissaient, il fallait mettre par écrit. Et alors, des auteurs ont composé des œuvres qui sont des œuvres littéraires. Il ne faut jamais oublier qu'un auteur a un projet d'auteur. Donc, des œuvres qui sont des œuvres littéraires dans lesquelles il a mis du récit et il a intégré des paroles qui ont été effectivement empruntées en général à des sources de paroles, des collections de paroles existantes.
Alors, pourquoi dans la Bible, on a finalement mis ces quatre évangiles, ces quatre versions de la vie du Christ ?
Ah ben parce que personne ne peut dire la parole définitive sur Jésus, et il est bien qu'il y ait quatre aspects différents. Alors il y en a trois qui ressemblent un peu, Matthieu, Marc et Luc. En revanche, l'évangile de Jean qui est beaucoup plus tardif, hein, on le date en général des années 90-95, donne des aspects de la personne de Jésus. Prétendre saisir la totalité de la richesse de Jésus dans un seul récit, ce serait impossible. Et donc, ces regards variés permettent de donner justement des aspects. Ce sont des œuvres qui ont été destinées à des communautés différentes. Actuellement, les communautés chrétiennes sont différentes. Et il est bien qu'il y ait des regards différents.
C'est la partie la plus importante, c'est le noyau de la Bible, ces quatre évangiles ?
Alors, c'est au moins la partie la mieux connue, la mieux connue des chrétiens. On pense effectivement, si vous voulez, souvent que comme ce sont des récits sur Jésus, cela permet effectivement de l'approcher de façon très précise et comment dirais-je, très vivante. Les écrits de Paul sont plus difficiles, mais il y a aussi des choses très bien chez saint Paul.
Le béaba du christianisme, Pauline de Torsiac.
Et cette semaine, on parcourt la Bible avec Michel Quesnel dans le béaba du christianisme. On s'intéresse plus particulièrement à sa structure, la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, un seul chemin vers Dieu. On pourrait dire, Michel Quesnel, finalement, que l'Ancien Testament, c'est l'attente et le Nouveau, l'accomplissement.
Oui. D'ailleurs, le mot accomplissement est employé par plusieurs auteurs du Nouveau Testament, par saint Paul et aussi beaucoup par Matthieu. Lorsque Jésus accomplit tel ou tel geste, par exemple, il est très fréquent que l'évangéliste Matthieu, qui lui-même est juif et écrit pour des juifs, commente en disant « Ainsi s'accomplit ce qui avait été prédit par le prophète, etc. »
On n'a pas parlé de l'Apocalypse, c'est le dernier livre du Nouveau Testament. Voilà, qu'est-ce que nous dit cet Apocalypse et quelle valeur a ce texte ?
Alors d'abord, il faut se dire que cet Apocalypse est la seule qui est dans la Bible. Mais le genre littéraire apocalypse a été très représenté dans les derniers siècles avant notre ère et dans les premiers siècles de notre ère. Qu'est-ce que c'est qu'une apocalypse ? C'est un voyant qui prétend avoir effectivement eu des révélations célestes et qui explique ce qu'il a vu et qui décrit ce qu'il a vu, mais à travers un symbolisme souvent extrêmement complexe, des symbolismes de couleurs, des symbolismes d'animaux, etc., etc., des symbolismes de personnages. Ce sont des livres qui ont besoin d'être décryptés. Donc l'auteur d'une apocalypse ne prétend pas parler clair. Il parle essentiellement en symboles, et c'est pourquoi effectivement une apocalypse peut être interprétée de façon extrêmement différente. Vous avez des gens qui ont cru y voir la date de la fin du monde, qui n'y trouvent absolument pas, et d'autres gens qui ont vu dans les apocalypses des messages très sévères, puisque effectivement il y a des événements très tragiques qui sont décrits, et d'autres des messages de consolation. Il y a un peu de l'un et de l'autre. En général, les apocalypses sont rédigées à des époques troublées. Alors finalement, le voyant est témoin des troubles qui existent à l'époque où il écrit, et à travers du tragique et à travers de l'espérance, il dit comment ces troubles, comment cette période tragique peut déboucher sur des moments de bonheur.
On parlait de mythe et de réalité tout à l'heure, dans l'Apocalypse.
Alors, le mot mythe ne convient pas tout à fait, si vous voulez, parce que le mythe, c'est la mise en récit de conviction. Là, c'est pas seulement du récit, c'est aussi un ensemble beaucoup plus complexe. Le genre littéraire apocalypse, c'est plein d'images et plein de, il y a quelques éléments de récit. Il y a aussi des exclamations, vous avez des poèmes, vous avez de tout. Dans le bréviaire, vous avez des cantiques et qui ont été détachés de l'Apocalypse, par exemple.
Quel est finalement, Michel Kellen, le fil rouge de toute la Bible?
Le fil rouge, le Dieu créateur a souhaité se faire connaître de la population humaine qu'il a créée et progressivement, il a révélé des aspects de lui-même. Ça ne pouvait pas se faire du jour au lendemain parce que Dieu est tellement au-dessus de ce que sont les humains que ça n'a pu commencer que de façon progressive. Donc l'élection d'un peuple qui a été sélectionné pour être le destinataire de textes législatifs aussi, comment faut-il vivre, etc. Et puis, progressivement, si vous voulez, les choses se sont développées, et on est arrivé à l'accomplissement de tout cela en la personne de Jésus, Jésus étant parole et image de Dieu. Ce que l'on peut voir de Dieu et dire de Dieu, c'est vraiment dans la personne de Jésus que cela s'accomplit. Mais de Jésus, on n'a que des approches, comme je le disais tout à l'heure, soit par des récits, soit par des écrits comme les lettres de saint Paul. Et donc finalement, pour nous, fréquenter la Bible, c'est vraiment connaître le projet que Dieu a sur les humains.
On ne peut pas résumer ça au kérigme, Dieu mort sur la croix pour nous sauver, ça ne résume pas la Bible. Ça.
C'est un peu trop court.
C'est un peu léger.
C'est un peu trop court.
Alors, est-ce qu'il y a un ordre pour lire la Bible, un ordre à respecter? Par quoi est-ce qu'il faut commencer?
Alors, rien n'est prescrit. Mais si on veut entrer, comme c'est un texte compliqué, il vaut mieux trouver des portes d'entrée. Pour le Nouveau Testament, ce que je conseillerais sans doute, c'est de commencer par un évangile, et peut-être l'évangile de Marc, qui est
Pourquoi
le plus court, qui est le plus vivant, et qui est le plus anecdotique. Les autres évangiles, Matthieu et Luc, sont davantage construits autour d'une théologie relativement précise. Et quant à Jean, il est aussi lui-même très construit. Pour lire l'Ancien Testament, je vois deux possibilités, deux portes d'entrée. Soit commencer par le début du livre de la Genèse, en sachant très bien que les 11 premiers chapitres sont du mythe. On commence à avoir des choses qui touchent à l'histoire avec Abraham au chapitre 12. Mais ce qui est aussi relativement facile, c'est de commencer par les livres historiques qui décrivent des événements autour du roi Saül, du roi David, des royaumes d'Israël et de Juda, qui sont des récits historiques. Alors, tout n'est pas historiquement prouvé, mais ce sont quand même, si vous voulez, vous avez un fil narratif. Et quand on n'est pas très habitué à lire des livres compliqués, avoir un fil narratif, c'est quand même une aide sérieuse.
Alors, la Bible, c'est le livre le plus étudié, le plus traduit, c'est l'un des livres les plus vendus au monde. Pourquoi cette Bible fascine tant?
Je crois d'abord, si
vous voulez... Autant d'ailleurs les croyants que les
non-croyants.
Oui,
je crois d'abord, si vous voulez, que les chrétiens sont quand même une grande partie de l'humanité, même si maintenant d'autres religions ont rejoint. Mais je crois aussi que pour des gens qui ne sont pas chrétiens, cela fascine. Parce que finalement, toute notre culture est imprégnée de Bible. Vous allez dans une église, vous allez vous regarder de la peinture, dans un musée, etc. Vous avez de la Bible partout. Donc, ne pas l'approcher, y compris quand on est agnostique, un croyant athée, c'est se priver d'une approche de notre culture. Et je crois que ça vaut la peine, même si on n'a aucune conviction religieuse proche du christianisme, de la fréquenter, oui.
Déjà, sur le plan culturel, on a un intérêt à aller se plonger dans la Bible, mais c'est paradoxal parce que cette Bible, à la fois, elle est la plus étudiée, la plus traduite, la plus vendue au monde, et en même temps, si on pose la question...
la moins lue.
Non, mais voilà, c'est ça, on la connaît mal, cette Bible.
Oui, elle est mal connue parce qu'il est vrai que, si vous voulez, qu'elle est complexe. Et on a quand même intérêt, à mon avis, quand on veut se plonger dans la Bible, à prendre des livres d'initiation. Il y a quand même quelques manuels très simples qui permettent de savoir. Moi, j'ai écrit, par exemple, un livre qui s'appelle « Première question sur la Bible », qui a été publié chez Salvator. Et bon, je crois effectivement que ça permet aux gens qui n'y connaissent rien de voir quel instrument ils vont avoir entre les mains et donc de ne pas l'aborder de façon complètement naïve. Et en même temps, ce livre n'est pas savant. Il permet à monsieur tout le monde d'aborder les textes.
Et puis on peut le parcourir de manière très libre, en commençant, vous l'avez dit, par l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les psaumes.
Alors voilà. On peut aussi, vous avez raison de mentionner les psaumes, parce que finalement les psaumes sont les très belles prières. Il y en a qui sont insupportables, parce qu'ils trucident les ennemis avec beaucoup de violence. Mais il y a quand même des psaumes absolument superbes. Prenez le psaume « Le Seigneur est mon berger », par exemple, qui sont des textes très apaisants. Ou un des psaumes attribués à David, le psaume 50 ou 51 en hébreu, qui est la prière de David après qu'il a envoyé Uri se faire massacrer pour coucher avec sa femme. Un psaume de repentir, de pénitence, qui est superbe.
Eh bien, on va finir justement sur ces psaumes. Merci beaucoup, Michel Quesnel, d'avoir été avec nous dans le Béaba du christianisme, justement pour découvrir la Bible. J'espère que ça vous aura donné envie d'aller plus loin. Je rappelle que vous êtes prêtre de l'Oratoire à Lyon. Vous êtes docteur en théologie bibliste et exégète. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur rcf.fr et je renvoie les auditeurs à votre livre « Première question sur la Bible ». C'est aux éditions Salvator. Merci beaucoup.
Au revoir.